Radio Potager, l'émission qui vous met les mains dans la terre. Les jardiniers de Terre et Humanisme s'invitent chez vous pour vous faire découvrir les secrets de l'agroécologie. Biodiversité, sol vivant, fertilité, monde végétal, des astuces et des conseils pour ne pas se planter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Arnaud, formateur et jardinier chez Terre et Humanisme. Salut Arnaud.
Salut Léa.
Alors pour ce nouvel épisode de Radio Potager, aujourd'hui on va parler de sécheresse, on va parler de changement climatique et d'adaptation de notre jardin au changement climatique. Alors l'idée c'est pas de faire déprimer tout le monde tout de suite, et c'est plutôt de vous proposer des solutions, des alternatives et des méthodes pour adapter le jardin potager et pour cultiver en s'adaptant donc au changement climatique dont on voit de plus en plus les effets. Donc déjà, j'avais envie de commencer en disant, enfin, je pense que tout le monde se doute, mais une plante, ça a besoin d'eau, comme tous les êtres vivants. Ça a besoin d'eau pour vivre, mais donc s'il y a de moins en moins d'eau, on imagine qu'il y a quand même des solutions pour économiser cette eau. Et c'est ce qu'Arnaud, tu vas nous expliquer. Donc, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as pu observer autour de toi des effets du changement climatique? Bon, déjà, on a remarqué la sécheresse l'été dernier. On a aussi parlé de sécheresse cet hiver. Comment est-ce que toi, tu as observé ça?
Eh bien, effectivement, le changement climatique, aujourd'hui, il est bien présent depuis une dizaine d'années que les effets sont de plus en plus palpables, notamment dans le sud de la France. Et tu parlais tout à l'heure d'eau. C'est pas tant qu'on va recevoir moins d'eau, en tout cas lissée sur l'année, c'est que cette eau, elle sera moins bien répartie au fil de l'année. On va sûrement avoir de plus en plus d'hivers plus pluvieux et aussi d'été plus sec. C'est un petit peu partout en France, mais surtout dans le sud de la France. Les effets, on les voit avec les canicules, des incendies plus fréquents, clairement du manque d'eau au moment où on en a le plus besoin, des plantes qui sont plus stressées, des ravageurs qui peuvent aussi venir de l'étranger et qui arrivent dans des écosystèmes déjà fragilisés et donc du coup qui vont poser encore plus de soucis. Il y a pas mal d'effets un petit peu néfaste du changement climatique, et donc dans tous les cas, en tout cas, il est clairement primordial de réduire dès aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre. On sait très bien que c'est ça qui influe majoritairement le changement climatique, en tout cas les gaz à effet de serre émis par l'homme, mais du fait de l'inertie climatique qui est quand même assez longue, on parle d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire que même si on arrête nos émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui, on sait que le climat va continuer quand même à se réchauffer un certain temps. Donc aujourd'hui, parler d'adaptation, c'est primordial, et il y a énormément de choses à faire pour s'adapter au changement climatique, en tout cas dans notre département, en Ardèche ou autour. On va détailler ça.
Donc quand tu dis s'adapter, c'est là on parle du jardin principalement.
Oui, là l'idée c'est plus de parler de son jardin potager, de son jardin à soi. Même s'il y a des choses qui peuvent être reproductibles à plus grande échelle dans le monde agricole, là l'idée c'est plus de dire un peu pour mes arts fruitiers, mon potager, qu'est-ce que je peux faire moi chez moi pour continuer à produire mes légumes quelle que soit la saison, continuer à avoir un jardin abondant malgré les différentes conséquences du changement climatique.
Et au niveau de l'agriculture aussi, il y a eu des conséquences assez graves dues à la sécheresse l'été dernier, je crois.
Oui, j'avais participé à une réunion sur le projet alimentaire territorial autour de Saint-Ambroise, du PAT là-bas. Et il y avait notamment un maraîcher là, qui expliquait que l'été dernier, il avait perdu une grosse, grosse partie de sa production de courgettes. Donc c'est un légumier qui faisait donc majoritairement de la courgette. Ces courgettes se font polliniser donc par des insectes. En général, là-bas, c'était beaucoup des abeilles, tellement il y en avait. Donc il avait des ruches. Et ces abeilles, à partir du moment où l'intérieur de la ruche passait au-delà de 40 degrés, donc c'est arrivé très souvent l'été dernier, les abeilles étaient toutes occupées à refroidir la ruche et il n'y avait plus de pollinisation de ces courgettes en l'occurrence, et donc il a perdu une grosse partie de sa récolte. Donc ça c'est des choses qui étaient très rares dans les années précédentes et qu'on va voir de plus en plus. On peut parler sur l'eau, il y a de plus en plus de conflits notamment autour de l'eau, donc il y a tout un enjeu aujourd'hui à avoir une gestion un petit peu globale, holistique de l'eau sur nos territoires, voir un petit peu comment partager l'eau, comment faire en sorte que cette eau reste le plus longtemps sur le territoire et qu'elle ait un usage réparti sur différents usages, et notamment l'usage agricole qui reste quand même un consommateur important d'eau, que ce soit sur le territoire ici ou partout en France.
Alors il y a l'eau et puis il y a plein d'autres... j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses en agroécologie, pas mal de méthodes, pas mal de pratiques qu'on peut mettre en place justement au jardin pour s'adapter aux conditions climatiques un peu extrêmes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de méthodes du coup pratico-pratiques?
Eh ben si on reste sur l'eau par exemple, en agroécologie l'idée c'est on va essayer de ralentir au maximum l'eau et de faire en sorte que toutes les gouttes d'eau, les précipitations, quoi que ce soit qui arrivent sur son terrain restent le plus longtemps possible. Et donc ça c'est vraiment primordial, et le premier stockage d'eau, sans même de parler de bassines ou de réservoirs, c'est vraiment le sol, un sol vivant, un sol profond, un sol qui est riche en matière organique, qui est riche en humus. Il peut garder énormément d'eau, on parle entre 40 et 400 litres par mètre carré selon les sols. Bien sûr c'est des sols où on va essayer de pas trop travailler, pas trop perturber, des sols qui sont très laboureux, ils vont avoir tendance à moins garder l'eau, ils sont déstructurés, ils laissent passer l'eau beaucoup plus facilement. Donc essayer d'avoir un travail minimal de son sol, ça va aussi faire, enfin on va aussi faire en sorte du coup de mieux garder l'eau dans son sol, faire des apports de compost, de matière organique très régulièrement, ça va aussi enrichir son sol en humus, qui du coup l'humus a une très grande capacité, une très grande résilience à la sécheresse, donc ça c'est vraiment aussi très intéressant. Et après on peut aussi bien sûr parler de couvrir son sol, notamment en été, de différentes matières organiques qui vont ralentir l'évaporation de nos sols. Nous, de plus en plus au sein de Terre Humanisme, on a énormément d'arbres qui font de l'ombre, de l'ombrage, et qui créent aussi une atmosphère un petit peu humide, qui est aussi très intéressante au jardin. En fait, souvent on parle un peu des pics de chaleur, des canicules qui mettent un coup sur nos jardins, sur nos légumes, mais c'est pas tant la température en elle-même qui pose souci, c'est surtout l'humidité de l'air en fait. Et le fait que l'air soit sec, en fait, les plantes, elles se mettent en sécurité, elles ferment leurs tomates, elles ferment leur système un peu de régulation, et elles arrêtent complètement de pousser. Et si elles ferment leurs tomates trop longtemps, en fait, elles finissent par mourir. C'est ce qui peut arriver. En plus, ici, on a le Mistral, qui est un vent qui est quand même assez fort et séchant. Et du coup, il faut vraiment faire en sorte de faire un peu une petite bulle dans son jardin, de planter des haies, faire en sorte de couper ce vent. Les arbres aussi, ils ont vraiment la capacité d'aller chercher l'humidité, l'eau très très en profondeur avec leurs racines, de la remonter à la surface et de faire une ambiance un peu plus humide, un peu plus fraîche, et qui va favoriser vraiment la pousse des plantes. Et nous chez Terre Humanisme, on a mis énormément d'arbres, mais on n'a pas encore assez d'ombrage, donc on met énormément d'ombrières. Donc des ombrières, c'est des structures permanentes ou semi-permanentes qu'on construit nous-mêmes en bambou ou autre chose, et après par-dessus, donc à quelques mètres de haut, on vient positionner des choses qui vont faire de l'ombre. Ça peut être des canisses, de la fougère ou juste des déchets de jardin, du désherbage. Et on a remarqué de nous depuis quelques années, en tout cas là où on est à La Blachère en Sud Ardèche, que nos plus belles tomates en été, aujourd'hui elles poussent sous ombrière. C'est-à-dire que même pour des légumes qu'on connaît bien et qui sont plutôt censés être plutôt des légumes d'été qui résistent bien au chaud et au soleil, et donc, en l'occurrence la tomate, les conditions qui deviennent de plus en plus hostiles, même pour des légumes comme ça, quoi.
Alors qu'on les appelle les légumes du soleil.
Alors même qu'on les appelle des légumes du soleil, ouais.
Ok. Merci. Donc un peu pour récapituler, donc tu nous as parlé des arbres, tu nous as parlé de la couverture du sol pour garder l'eau, la matière organique, l'humus, j'oublie des choses peut-être, mais je crois qu'on a déjà un petit récap.
C'est ça, protéger du vent au maximum.
Ok, on va faire une petite pause musicale et puis on reprend juste après, on va écouter Kolinga.
Jeter dans les eaux un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois. Qui on est, où l'on va? Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Le sage ou le têtu. Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis, le sais-tu. Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus.
Présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes, les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance. Vers des jours plus heureux, je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter.
Avec toi, j'aimerais me lever.
On est toujours dans Radio Potager avec Arnaud, formateur en agroécologie de terre et humanisme. Et juste avant cette pause musicale, donc on parlait des techniques agroécologiques pour s'adapter au changement climatique et notamment à la sécheresse au jardin potager. Donc Arnaud, tu nous as parlé de plusieurs méthodes, donc notamment planter des arbres au jardin, couvrir son sol, faire des ombrières donc pour mettre ses cultures à l'ombre. Et aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé, donc c'est les associations de légumes. En quoi est-ce que ça peut aussi permettre de s'adapter ?
Et ben notamment en plein été, en fait, maintenant on a des apports, enfin des apports solaires qui sont tels qu'on peut tout à fait planter des légumes qui vont être à l'ombre d'autres. Nous on fait de plus en plus au sein des jardins. Par exemple, si on plante des courgettes, on peut tout à fait planter en association avec des courgettes du maïs, qui va du coup ombrager un petit peu les courgettes, et tout en apportant une production supplémentaire. On peut penser aussi aux patates douces, hein, qui sont des légumes d'été, qui aiment beaucoup la chaleur, mais qui, s'il fait en canicule, ils vont quand même préférer être un peu à l'ombre, et on peut tout à fait associer des patates douces avec du tournesol, avec du maïs également, pour faire de l'ombre. Il y a aussi toutes les techniques autour des jardins-forêts, des forêts gourmandes, où là on va produire à différents niveaux. Un petit exemple comme ça, on peut tout à fait imaginer avoir sur la même parcelle au même endroit en couverture de sol des fraises qui vont rester quelques années, après des petits fruits juste au-dessus qui vont eux-mêmes faire un petit peu d'ombrage aux fraises. Ensuite on peut faire éventuellement une petite ombrière avec de la vigne qui peut pousser à quelques mètres de hauteur, et après des arbres un peu de haute tige, ou des pommiers, des arbres fruitiers, voire même un noyer qui peut un peu être vraiment en étage supérieur. Et du coup, ça va permettre notamment d'avoir une production, de cumuler plusieurs productions et avoir des légumes qui vont au final, enfin différents arbustes et légumes qui vont se sentir bien dans les nouvelles conditions climatiques.
Ok, et alors du coup, toutes ces techniques-là dont tu nous as parlé, donc là, elles sont applicables à l'échelle d'un jardin potager, mais est-ce qu'on peut aussi dire qu'elles sont adaptées à l'agriculture, enfin au niveau professionnel du coup?
Il y en a quand même beaucoup qui peuvent être reprises à grande échelle, en agriculture en général, notamment le fait d'augmenter le taux de matière organique de ces sols. En fait, plus un sol est riche en matière organique, plus il va faire éponge à l'eau et plus il va être résilient à la sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose que ce soit au potager ou en grande culture, c'est identique. L'agroforesterie, donc c'est-à-dire d'associer de l'arbre avec des légumes ou des céréales, ça c'est aussi très important. Après, on augmente un petit peu la complexité du système et donc il y a une certaine concurrence à gérer. Donc c'est un petit peu, il y a une gestion un petit peu plus fine à avoir quand on part sur des systèmes comme ça, mais entre guillemets, on va être obligé de toute façon d'y aller. Puis après, il y a des techniques qui sont vraiment typiques du potager, comme les zoyas, qui sont des espèces de petits réservoirs en terre cuite que l'on enterre dans le sol et on les remplit d'eau et après ça diffuse l'eau sur quelques semaines, et donc c'est assez pratique, notamment si on doit partir en vacances l'été par exemple, des choses comme ça. Et ça, clairement, c'est impossible de mettre ça, de reproduire ça à grande échelle en agriculture. Donc il y a quand même des choses qui sont différentes, mais globalement il y a les grandes pratiques restent les mêmes au potager ou en agriculture.
Ok, alors on arrive bientôt à la fin de l'émission. Du coup, très rapidement, tu peux nous parler un petit peu des semences, parce que je pense que c'est une adaptation aussi à la sécheresse et au changement climatique de choisir des semences adaptées.
Tout à fait, ouais. Les semences, c'est quelque chose de très important. On n'a pas forcément idée de donner autant d'importance que nécessaire, mais ça va être très important d'essayer d'avoir des semences qui viennent plutôt proches de chez nous, locales. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des semenciers locaux, en général, autour de chez vous. Ils travaillent beaucoup aujourd'hui sur l'adaptation des semences au terroir, au changement climatique, au pic de chaleur. Et surtout, en Ardèche, on en a quand même pas mal. N'hésitez pas à aller voir notamment le site du réseau Semences Paysannes, qui regroupe énormément de différents semenciers partout en France.
Ok. Merci Arnaud pour toutes ces infos précieuses. Et si vous voulez tous et toutes en savoir plus sur les techniques agroécologiques, vous pouvez toujours retrouver plein d'informations sur notre site, donc terre-humanisme.org. Il y a plein de ressources gratuites, il y a des fiches pédagogiques, il y a des vidéos. On est aussi sur les réseaux sociaux. Et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de fréquence 7 dans Radio Potager.
Merci, à bientôt.